Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Beni. Voici les titres de ce nouveau journal sur Radio Kapi. Le coordonnateur national du projet de développement du système de la santé, PDSS, rejette en bloc les allégations de détournement portées à sa charge par l'équipe de l'IGF. C'est à travers un communiqué signé par le docteur Dominique Babokoubouye et dont copie est parvenue à Radio Kapi. En Ituri, 16 miliciens ont été neutralisés par les FARDC au cours des affrontements hier dimanche contre la coalition CODECO-FPIC dans le territoire de Djougou. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que ce bilan est encore provisoire car les opérations militaires se poursuivent dans la zone. L'invité de ce journal est le professeur Alphonse Maindo, directeur de Tropendos RD Congo, une organisation qui accompagne les paysans à acquérir des titres des concessions forestières, notamment dans la Tchopo. Là-bas, Tropendos RDC sensibilise les communautés paysannes à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Bienvenue, le projet de développement du système de santé PDSS vient de réagir au projet au rapport sur les allégations de détournement portées à sa charge par l'équipe de l'IGF, l'inspection générale des finances, dans un communiqué signé par son coordonnateur national, Dr Dominique Babokoubouye, et dont copie est parvenue à Radio Kapi. Les PDS rejettent en bloc toutes les allégations. Des détails de ce communiqué avec vous, Esther Ndalafina.
Concernant les dépenses sans justificatif effectuées par le projet de développement du système de la santé de l'ordre de plus de 7 millions de dollars américains pour le financement IDEA en 2021, le PDSS explique pour sa part que les pièces originales de ces dépenses existent et sont disponibles dans les établissements publics en province. Quant à l'existence des dépenses de l'ordre de 2 316 000 dollars qualifiées inéligibles par la Banque mondiale et remboursées aux bailleurs par le gouvernement de la RDC sans que les responsabilités ne soit partagée au cours de la période de 2016 à 2019 et pour plus de 70%, le PDSS indique que cette situation concerne les anciens responsables de cette coordination. Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, l'IGF revient sur la restitution par le PDSS au ministère de la Santé de la somme de 224 000 dollars destinée à l'achat des 3 ambulances médicalisées sans que la coordination de ce projet ne soit informée. Le PDSS dit avoir retourné l'argent au ministère étant donné que les ambulances n'avaient jamais été achetées. Il demande à cet effet à l'IGF d'obtenir des explications auprès du ministère de la Santé. Quant aux irrégularités dans la passation des marchés publics et la non-application des sanctions contre les fournisseurs défaillants ou ayant livré en retard les intrants, pour le PDSS, les explications du retard fournies par les fournisseurs ne leur permettaient pas de prendre des sanctions à leur égard.
Et parlons à présent de cet appel de la Direction générale des impôts, DGI, à la population congolaise à payer l'impôt. Appel lancé hier dimanche ici à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Barnabé Mouakadi Mwamba, directeur général de cette régie financière, estime qu'en payant l'impôt, les contribuables donnent ainsi au gouvernement les moyens de réaliser sa politique. Il est dit à Paul Matendo.
Un gouvernement ne peut réussir que s'il est soutenu par les impôts. Sans les impôts, un gouvernement ne peut rien faire. Pour que le gouvernement construise l'école, c'est avec notre argent. L'argent ne vient pas du ciel. En payant nos impôts, nous donnons les moyens au gouvernement pour faire sa politique. Nous devons comprendre ça. Ici, en RDC, cette culture n'existe pas. Voilà, nous insistons beaucoup. Là où vous êtes sensibilisés, dites à nos frères et sœurs que si nous ne payons pas l'impôt, c'est que nous n'aimons pas ce pays. C'est lui qui aime le pays doit réellement payer son impôt. Pour un pays comme la RDC, à plus ou moins 90 millions d'habitants, nous n'avons que 200 000 contribuables. C'est vraiment honteux. Honteux, qui ne représente absolument rien. Alors, nous devons penser à élargir l'assiette fiscale par les recensements, par la culture fiscale, puisque pour moi, l'impôt, il faut commencer à l'enseigner dès l'école primaire.
En Ituri, 16 miliciens ont été neutralisés par les FARDC au cours des affrontements hier dimanche contre la coalition CODECO FPIC au village d'Abombi, à environ 75 km au nord de Bounia dans les territoires de Djougou. Des sources concordantes signalent que 3 civils sont également morts pendant les combats entre les deux parties. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que ce bilan est encore provisoire car les opérations militaires se poursuivent dans la zone. D'autres détails avec Isaac Remoyopi.
Des miliciens de la faction de la CODECO dénommée Bon Temple de DSC de la Force Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC ont attaqué dimanche vers 3h du matin la position de l'armée au village d'Andissa dans le secteur de Banyarikilo. Dans la foulée, un militaire et des civils, une femme et un enfant ont attrapé des balles et sont morts sur place, affirment des sources de sécurité. Des FARDC sur place ont réussi à repousser l'ennemi grâce à leur supériorité numérique. Les affrontements ont duré environ 3h jusqu'au matin. L'armée dresse un bilan provisoire de 16 miliciens tués et plusieurs autres qui sont blessés. Selon les porte-parole des FARDC en Ituri, les opérations de ratissage se poursuivent pour démanteler ces groupes armés. Depuis ce lundi matin, calme précaire s'observe dans ces milieux. Certains habitants qui ont fui dans la brousse commencent à regagner leur domicile. Le trafic a repris normalement sur les tronçons Bounia-Mungwalu. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, 5 personnes, dont un policier, ont été tuées par balle hier dimanche par des soldats FARDC à Luna, à la limite des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, sur la route nationale numéro 4. Une incompréhension entre le commandant des troupes en partance pour l'Ituri et les agents commis au poste de contrôle de Luna serait à la base de cet incident dramatique, souligne le porte-parole des opérations Sokola 1. Le récit des faits avec André Kitengi.
L'incident a eu lieu aux environs des 10h du matin dimanche au poste de contrôle de Luna à la limite des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, il s'agit des soldats FARDC ayant quitté Beni pour Bounia dans le cadre des opérations contre les ADF qui ont ouvert le feu sur ordre de leur commandant. Il y a eu 3 personnes tuées sur le coup, notamment un policier et 2 civils ainsi que des blessés. 2 parmi les blessés sont morts plus tard suite à leurs blessures. Le capitaine Anthony Mwalushai explique.
L'incident est arrivé au moment où il y a un colonel qui convoyait le militaire pour aller dans les opérations qui sont à Bounia. Très tôt matin, il a pris le convoi vers la direction Bounia. Arrivé au niveau de Luna, de la barrière, il y a eu des incompréhensions. Il a donné l'ordre et ses militaires ont ouvert le feu. Mais malheureusement, ils ont ouvert le feu en désordre. Et nous avons déploré sur place la mort d'un policier. Et aussi du côté civil, nous avons déploré 2 morts.
Cette situation a provoqué une vive tension dans la région. Des habitants qui croyaient à une nouvelle attaque des ADF ont commencé à vider les lieux. De son côté, l'armée a annoncé l'arrestation de l'officier militaire ayant donné l'ordre de tirer sur instruction du commandant des opérations Sokola 1, le général de brigade Berthe Poutela. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En bref, à Beni, perturbation ce lundi matin de la circulation sur la route Beni-Kassindi au niveau de Païda. Des jeunes du quartier sont en colère après la mort d'un taximen moto tué par balle par un homme armé en tenue militaire. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Ce lundi matin, des barricades ont été érigées par ce jeune à Païda, perturbant ainsi la circulation sur cet axe routier. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place où elles ont remis de l'ordre. Le corps de la victime se trouve à la morgue de l'hôpital général de Beni. La police, elle, dit avoir ouvert une enquête. Au Nord Kivu toujours, la situation était tendue ce lundi matin dans l'agglomération de Nyabiondo, située à une 20aine de kilomètres au nord-ouest du chef-lieu du territoire de Masisi. Cela a fait suite aux affrontements qui ont opposé la nuit les FARDC au présumé Maïmaï du groupe Nduma pour la défense du Congo, NDC rénové de Guidon. Plusieurs villages se sont vidés de leurs habitants dans la zone. Des détails avec Bernard Denyangui.
C'est autour de minuit que les hommes de Guidon, venus probablement du village Mutongo dans le territoire voisin de Walikale, auraient attaqué simultanément les positions des FARDC dans les villages Luibo, Kinyumba, Kilambo et Lokweti autour du village de Nyabiondo, disent les sources administratives locales. Jusqu'à l'aube, des tirs étaient encore entendus dans la zone, précisent ces sources qui confirment que l'armée a toutefois repoussé l'attaque. Les hommes de Guidon se seraient repliés vers Katiri sur les limites du secteur Osobanyongo, territoire de Masisi, et le groupement Iyana, territoire de Walikale. Le député provincial Alexis Baunga, élu dans la zone, précise que depuis plus de 3 jours, des alertes sur l'imminence de cette attaque étaient déjà données. Ce qui fait, selon lui, que des habitants de 4 villages s'étaient déjà déplacés vers Nyabiondo, Bukombo et Kachebere sur la route Walikale-Masisi, excepté les habitants du village Myumba, non lieu de Luibo, qui, eux, se sont déplacés ce lundi matin, dit-il. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Kapi.
En bref, encore au nord Kivu, un mort, trois personnes blessées et plus de 25 vaches tuées. C'est le bilan d'une incursion dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Kanombe, village situé à quelques kilomètres de la localité Kabaya Rumangabo, dans la chefferie de Bouicha en territoire de Rutshuru. L'information est livrée par la société civile et confirmée par des sources officielles locales. Et toujours au nord Kivu, les acteurs de la société civile ainsi que les fonctionnaires délégués du gouverneur dans la région de Diapanda en territoire de Lubero se disent préoccupés par les incendies récurrents des postes de police dans la zone ces derniers jours. Le dernier cas en date est l'incendie du poste de police de Mayeba le samedi dernier. Ils demandent aux autorités compétentes de se pencher sérieusement sur la question pour mettre fin à ce phénomène. Grâce à Mzati pour les détails.
Des sources dans la région rapportent qu'en l'espace d'une semaine, trois positions de la police ont été incendiées notamment par des inconnus. La nuit de vendredi à samedi, c'est le poste de police de Maeba qui a été incendié alors que les policiers étaient en intervention en Diapanda, une vingtaine de kilomètres du lieu. La veille, c'est le poste de police de Kambao dans le secteur de Bapere qui a été incendié ainsi qu'une moto. Peu avant cela, le poste de police de Kaeku dans la même zone a pris aussi feu. Tous les effets des policiers sont partis en fumée. Face à cette situation, les acteurs de la société civile plaident pour le renforcement de l'effectif des forces de police dans ces entités pour prévenir de telles attaques. Le fonctionnaire délégué du gouverneur dans la zone, Mongamabanga Julio, qui confirme tous ces faits, s'est dit également préoccupé et dit craindre les conséquences collatérales de ces attaques récurrentes contre la police sur la sécurité des habitants. Contacté, l'administrateur intérimaire du territoire de Lubero, le commissaire supérieur principal, Komaya Joseph, souligne que ces inciviques étant sans doute à la recherche des armes, des dispositions idoines sont en train d'être prises pour contrer toutes leurs attaques. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Et tout à fait autre chose à présent, la problématique de la peine de mort en RDC. Au centre d'un atelier d'échange entre acteurs de la société civile et les autorités politico-administratives locales. C'est une initiative du Centre d'éducation et de recherche pour les droits de la femme. Objectif, réunir des propositions appropriées pour accélérer l'abolition effective de la peine de mort en RDC. Des détails avec Jacques Moukonkolé.
Depuis 2003, la RDC vit sous le régime des moratoires sur l'abolition de la peine de mort. 19 ans après, ce moratoire n'a jamais été écoulé sous forme de loi. Aujourd'hui, certains estiment que l'heure a sonné pour que la loi soit promulguée en faveur de l'abolition de la peine capitale. Pierre Kibaka, président du groupe Justice et Libération.
Depuis 2003, tous ceux qui ont été condamnés à mort dans ce pays n'ont jamais été exécutés. Ce n'est pas là l'application directe de l'abolition de la peine de mort. Si c'est cela, mais qu'est-ce qui empêche à ce que officiellement on puisse sortir la loi et que la loi soit promulguée?
D'autres, par contre, aimeraient que la peine de mort soit tout simplement appliquée afin de dissuader tous les délinquants potentiels.
Il y a des crimes crapuleux qui se commettent dans ce pays et de telles personnes telles que des délinquants criminels nés, même si vous le laissez en prison, après 10 ans, 20 ans, vous les libérez, il continuera de tuer. Et une telle personne, il faut tout simplement l'éliminer. Abolir la peine de mort, nous ne sommes pas encore d'accord à ça. Que la peine de mort reste.
Pour Claudine Bella, coordonnatrice du CERDEF, cette sanction ne peut être abolie que si l'État congolais prenait des dispositions adéquates pour que les criminels purgent effectivement leur peine en prison. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain soudanais, a rencontré hier dimanche Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. L'objectif de cet entretien était de discuter sur des questions politiques du Soudan. Les deux hommes se sont mis d'accord. Tout accord ou initiative soutiendra la stratégie de stabilité en Afrique. Après Paris, des centaines de véhicules participant au convoi anti-pass vaccinal, dont beaucoup venus de France, se préparaient hier, ce lundi, à se diriger vers Bruxelles, malgré l'interdiction de manifester dans la capitale belge, où se trouvent les institutions européennes.
L'invité
de ce journal est le professeur Alphonse Maindo, directeur de Tropembos RDC, une organisation qui accompagne les paysans à acquérir des titres de concessions forestières, notamment dans la Tchopo. Là-bas, Tropembos RD Congo sensibilise sur les communautés paysannes à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Le professeur Alphonse Maindo s'entretient à ce sujet avec Jacques Moukonkolé.
Professeur Alphonse Mahindo, bonjour.
Bonjour.
Dans votre travail, vraiment, vous faites la promotion de la foresterie communautaire. Qu'entend-on par la foresterie communautaire et quelle en est son importance?
La foresterie communautaire, c'est une initiative que le gouvernement congolais vient de mettre en place il y a quelques années seulement. Mais ce n'est pas une nouveauté parce qu'en réalité, c'est tout simplement une reconnaissance de ce que les communautés locales ont toujours fait. C'est-à-dire que les communautés locales sont des gestionnaires des forêts. Alors, il s'agit tout simplement ici de leur reconnaître des droits qu'ils ont pour une gestion durable des forêts. Alors, ils deviennent donc propriétaires. La loi congolaise dit que les terres et les sous-sols appartiennent à l'État. Et donc, les communautés, même si vous avez des revendications coutumières sur tel ou tel espace du territoire national, ce n'est pas votre propriété. Or, avec la concession que vous allez avoir, qui est délivrée par l'État congolais, par le gouverneur de province à titre gratuit et perpétuel, donc vous devenez propriétaire. Même l'État, s'il veut faire des choses sur cet espace-là, doit faire une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique avec des indemnisations qui vont avec.
Professeur, quel est le sens de cette foresterie communautaire, si vous voulez? Quel en est l'objectif?
Le sens de cette foresterie communautaire, parce qu'il y a une stratégie nationale qui a été mise en œuvre, ça vise à assurer le développement local de communautés forestières pour que ces communautés-là puissent véritablement profiter des forêts dont ils ont la jouissance de par la coutume et qui permettent leur développement. Et donc, pour ça, ils gèrent durablement et qu'ils puissent en tirer les meilleurs profits et en les sécurisant de la même manière contre les prédations qui proviendraient soit des acteurs étatiques ou des acteurs privés.
Et c'est pour cette raison que vous tenez à l'acquisition des titres forestiers au profit des communautés locales.
Oui, exactement, parce qu'on voit de plus en plus une espèce de boulimie forestière par des élites qui récupèrent des grandes concessions, surtout autour des grandes villes. Ils vont en faire après des lotissements et au détriment de communautés qui risquent de manquer des terres dans les années à venir. Alors donc, pour nous, c'est une manière aussi de sécuriser les terres pour les communautés locales, pour qu'elles aient des forêts et pour qu'elles continuent à faire les activités.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la dégradation des forêts. Pouvons-nous dire que c'est aussi une des solutions à la problématique du réchauffement climatique?
Oui, exactement, parce que les communautés ont fait preuve de leur capacité à gérer durablement les forêts. Et nous avons aujourd'hui un défi mondial en ce qui concerne le réchauffement climatique et qui entraîne beaucoup de conséquences avec des pertes de la biodiversité et tout ça. Nous risquons d'disparaître. Et si on redonne aux communautés ces forêts-là, on a ainsi aussi une possibilité que ces forêts soient mieux gardées, moins détruites, et donc une stabilisation de la dégradation forestière et de la déforestation qui serait bénéfique pour toute l'humanité.
Pour ces communautés que vous êtes en train d'accompagner techniquement, combien ont déjà reçu leur titre forestier et combien en reste-t-il encore?
Alors aujourd'hui, nous sommes heureux que dans l'ex-province orientale, c'est la province de la Tchopo qui a été la première à attribuer les trois premiers titres de concession des forêts communautaires. Nous en avons une chez les Barumbi Tchopo, nous en avons une autre chez les Bampaka de Bampondi et une troisième chez les Bampaka de Bafamogo. Et en dehors de ça, il y a une dizaine d'autres qui sont sur la table du gouverneur en étude. Et donc je pense que les arrêtés pourraient sortir d'ici quelques semaines ou au plus tard quelques mois. Et en dehors de ces 10 autres, donc on aura probablement d'ici quelques semaines, quelques mois, nous aurons 13 titres de CFSL. Et je pense d'ici la fin de l'année, on aura encore 16 autres que nous sommes en train de faire avec les projets gouvernementaux, programme intégré pour la RED+. On a déjà reçu plusieurs demandes. Nous sommes en train de constituer 16 nouveaux dossiers de CFSL. Donc d'ici la fin de l'année, on aura probablement 29 CFSL dans la province de la Tchopo.
Professeur, les forêts doivent être préservées par les paysans. Comment peut-on aider les communautés à exercer moins de pression sur ces forêts quand on sait qu'il n'y a pas d'activité alternative?
Effectivement, beaucoup de gens nous ont souvent demandé, mais comment vous appuyez des activités économiques avec les communautés, tout ça? Vous êtes en train de demander qu'il y ait une meilleure protection de forêt, en même temps vous appuyez des activités économiques et ça ne risque pas d'être contradictoire. On dit non, il faut que les populations puissent avoir l'intérêt de garder les forêts debout. Pour que les populations aient l'intérêt de garder les forêts debout, elles doivent donc trouver d'autres alternatives qui leur permettent d'avoir des moyens de subsistance. Et c'est pour ça qu'on fait des activités génératives de revenus. Donc on appuie les gens avec les cultures pérennes et ces cultures pérennes, on ne les met pas n'importe où, on les met dans les jachères, dans les zones dégradées pour les valoriser. Après, ça évite donc que les gens puissent continuer à aller ronger dans la forêt primaire, ce qui nous préserve, et les autres forêts secondaires sont en train de se régénérer de manière naturelle.
Professeur Alphonse Mahindo, merci.
Je vous en prie.
Et c'était l'invité de ce journal, le professeur Alphonse Mahindo, directeur des Tropembos RD Congo, qui s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez continuer à l'écouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.